Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Jacques.
Bonjour Eva.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour des low-tech. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de la société, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc bonjour Jacques, et merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, je l'ai dit, autour des low-tech. Première question, la traditionnelle, peux-tu te présenter s'il te plaît ?
Eh bien, je m'appelle Jacques Tibéry, je suis journaliste. Je suis rédacteur en chef du magazine Low Tech Journal, qui est le seul magazine français papier dédié donc aux technologies douces et aux modes de vie résilients. Et donc le magazine a un an et demi aujourd'hui, on entre notre dixième numéro, et je me spécialise donc en tant que journaliste dans les questions écologiques et les questions donc de technologie appropriée.
Félicitations du coup.
Merci.
Alors, du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais te poser la question de qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des low-tech ? Une petite définition pour introduire le sujet.
Alors, j'ai passé quelques mois à essayer justement de répondre à cette question, qui est une question qui n'a pas encore de réponse précise. Il existe une mosaïque de définitions qui ont été données par quasiment tous les acteurs qui sont intéressés au sujet. Et j'ai tenté, moi, de donner une sorte de définition synthétique et surtout accessible au grand public. Parce que c'est un petit peu la problématique. Hein. On est face à un sujet qui intéresse avant tout des ingénieurs, des économistes, des designers, des architectes. Donc, des professions intellectuelles supérieures qui ont une grande rigueur intellectuelle et qui ont une grande culture générale. Ça fait des définitions qui sont souvent longues, qui sont pleines de concepts relativement inconnus du grand public. Et donc, on définit un mot, low-tech, que personne ne connaît, par d'autres mots que personne ne connaît. Donc, ça a une limite, c'est qu'on se parle entre nous, entre convaincus, mais il y a une difficulté à parler au grand public. Donc, il y a un travail qui est fait par tout un tas d'organisations, notamment le Low-Tech Lab, qui a proposé une définition en trois mots, utile, durable et accessible. Et cette définition, elle est à la fois géniale, parce qu'elle est hyper simple en trois mots, mais quand on veut creuser un petit peu, eh bien, il faut aller vers une diversité de définitions de chacun de ces mots. Et durable, ça ne veut pas nécessairement dire durable comme on le pense aujourd'hui. Par exemple, regardez cette voiture électrique, elle est durable. C'est une autre vision du durable. Donc moi, j'ai essayé de proposer quelque chose d'autre. Et actuellement, donc, c'est un livre que j'ai écrit qui va paraître au mois de novembre. Et donc, il va être soumis, eh bien, aux fourches codines, hein, aux yeux de lynx des différents acteurs. Et on va échanger là-dessus et on va essayer d'avancer. Et donc, c'est une définition qui est une proposition qui est bien sûr complètement ouverte. Et cette définition, je vais vous la donner maintenant tout de suite, c'est que la low-tech, c'est une volonté de concilier le bien-être et la frugalité énergétique.
Ok.
Voilà. Alors après, le bouquin, sur une 150aine de pages, reprend en fait chaque bout de cette phrase pour essayer d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces termes précisément. Mais je pense que juste en la disant, et on peut simplifier déjà, je peux renier ma propre production en proposant une définition encore plus simple, même si elle est beaucoup plus imparfaite que celle que je propose, qui est de dire en fait c'est l'art de concilier le confort et la sobriété.
Ouais, celle-là elle me parle.
Voilà, celle-là elle est encore plus simple, mais elle a beaucoup de défauts parce que le mot de sobriété Aujourd'hui, il est problématique à mon sens, et donc c'est pour ça que j'ai utilisé par exemple frugalité, frugalité énergétique, enfin bref, on y reviendra.
Ok, bah justement pour peut-être mettre en pratique cette définition que tu viens de nous donner, est-ce que tu pourrais nous donner quelques avantages, quelques inconvénients et surtout des exemples concrets de l'application des low-tech?
Alors, les avantages, c'est assez simple, c'est que le futur sera low-tech ou ne sera pas. Voilà.
Point.
Et c'est une, je dirais, c'est une évidence scientifique. Donc, malheureusement, moi, quand je dis c'est une évidence scientifique, je le dis en tant que journaliste. Mais la plupart des scientifiques, eux-mêmes, étant à la fois rigoureux et sobres, justement, dans leur positionnement, il suffit de regarder ce que dit le GIEC, ont du mal à faire tomber des phrases aussi brutales que la mienne. Et donc, ils ne vous diront pas, voilà, l'avenir sera low-tech ou ne sera pas. Ils vous diront, il y a trois scénarios, un scénario noir, un scénario vert. Et à mon sens, moi, j'ai toujours pris une position beaucoup plus, je dirais, radicale sur ces questions-là. C'est-à-dire que moi, je préfère appliquer le principe de précaution. Par conséquent, je prends le pire scénario et je dis, si ce scénario est réaliste, il faut le prendre comme étant le scénario, le principal scénario à éviter. Par conséquent, il faut se focaliser dessus en se disant, voilà ce qui va se passer si on ne fait rien. Si on se dit que tout ira bien et que c'est le scénario vert qui va s'appliquer, eh bien on ne fait rien. Donc je pense que ça met un plus gros coup de pied au cul de se dire voilà le pire, et donc penser le pire et espérer le meilleur, c'est mon positionnement, on peut dire. Donc dans cette vision du pire, le futur sera low-tech ou ne sera pas. Donc l'avantage, c'est que on peut probablement sauver ce qui reste à sauver de l'espèce humaine. Les inconvénients, eh bien, c'est évidemment qu'il faut entrer dans un, qu'il faut sortir de notre logique de croissance, permanence. Alors, pour ne pas commencer à sortir les mots obus type décroissance, etc., moi, je vais dire qu'il faut sortir de la philosophie du plus ou de la logique du toujours plus pour entrer dans une logique du moins, du mieux. Donc, ça appelle, par exemple, à de la déconsommation. Or, la déconsommation, c'est un, rien que cette idée-là, elle est complètement contraire à la tendance actuelle. Et tout le système va contre ça. C'est-à-dire que si on entre en déconsommation, c'est comme si on commençait à naviguer contre le vent. Donc, c'est très dur de naviguer contre le vent, faut ramer et il faut aller contre le système, en fait. Un exemple tout simple, c'est le smartphone. Il y a un auteur qui s'appelle Ivan Illich qui a analysé à un moment donné ce qu'il appelait le monopole radical ou le monopole absolu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une technique devient tellement centrale dans le mode de vie que si on n'en a pas, on est exclu de la société. Aujourd'hui, essayez de passer un mois, une semaine sans votre téléphone portable, vous êtes mort. Moi, je suis passé à un téléphone basique type Nokia 3210, etc. Pendant 3 mois, j'ai réussi à tenir pendant 3 mois. Mais quand je suis en déplacement, comme aujourd'hui par exemple, je prends ma puce et je la mets dans mon ancien iPhone et je viens en iPhone parce que je sais que je peux pas me garer si j'ai pas mon téléphone, que si j'ai une difficulté, un problème, j'ai besoin d'avoir mon téléphone, que je suis obligé de vérifier, par exemple, des heures, des dates, des choses, des informations qui évoluent et qui me sont uniquement envoyées via WhatsApp ou via mail ou etc. J'ai besoin d'un modem 4G pour mon ordinateur qui soit performant, etc., etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas de téléphone qui soit en mode feature phone qui puisse répondre à ces exigences-là. Et voilà, le téléphone est devenu le monopole absolu. Ça, c'était pour dire que le défaut de la low-tech, c'est que dans la société actuelle, c'est extrêmement difficile de passer en mode low-tech. Ça demande un effort considérable. Et ça, c'est tout le défi aujourd'hui des low-techers, hein, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, d'arriver à faire en sorte que l'on on passe à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire que on impacte le système lui-même, afin que le système ne soit plus aussi hostile à toute forme de déconsommation. Et ça, ça demande énormément de travail, puisque, une fois de plus, on nage contre le vent, quoi.
J'aimerais juste, avant de poser ma prochaine question, revenir sur le terme déconsommation, qui, moi, m'interpelle, c'est la première fois que j'entends. Est-ce que tu pourrais donner une définition ? Et est-ce que, du coup, le terme de déconsommation, ça rentrerait aussi dans une dynamique de recyclage, c'est-à-dire prendre l'existant, le recycler et le réinjecter, en fait, dans le système et dans le cycle de consommation ?
Alors, tout à fait, oui. Déconsommation, ça veut dire tout simplement appliquer en effet les 5 R de l'économie circulaire, parce que les deux premiers R, c'est réduire, et on pourrait même, au lieu de dire réduire, on pourrait même rajouter un R, c'est renoncer. Réduire, et ensuite, avant de recycler, avant de réparer, réemployer, par exemple. Donc, renoncer, c'est la base, et c'est le plus dur à faire. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage et la force de caractère de renoncer, ne serait-ce qu'à des trucs de base, c'est-à-dire j'ai soif, j'ai envie de m'acheter une bouteille d'eau, donc je vois la boulangerie du coin, j'y vais, je vais finir avec une bouteille d'eau en plastique. Bon ben non, donc je renonce à cette bouteille d'eau et je fais un effort, j'ai soif pendant encore une demi-heure, une heure, le temps de rentrer chez moi, et puis demain je partirai avec ma gourde. Donc voilà, ce sont des façons de faire qui changent en fait notre rapport au temps, notre rapport à notre organisation. Il faut être extrêmement organisé pour être low-tech. Il faut avoir tout prévu, il faut avoir un petit agenda dans sa poche, il faut écrire toutes les adresses, il faut avoir un plan, il faut, etc. Il faut même avoir une boussole, enfin. Donc on abandonne en fait le mode de vie ric et rac dernière minute que nous permet le smartphone. Et le smartphone, en faisant de nous des acteurs de la dernière minute, en fait, ça fait de nous des citoyens de la dernière minute, quoi. Des consommateurs à la dernière minute. Tout est fait à la dernière minute. Où est-ce qu'on mange ? Je sais pas. Hop, on va checker qu'est-ce qu'il y a autour, quelle est la note, quel est le machin. Ça, il n'y a que le smartphone qui le permet. On est complètement dépendant de lui. Donc, reprendre le contrôle et reprendre le pouvoir, eh bien, ça demande du temps et ça demande des efforts. Et ça devient très difficile de les faire aujourd'hui.
Mais c'est une très bonne transition, justement, parce que je voulais aborder une notion qui, moi, m'a interpellée. C'est en fait le fait que on peut prendre de vue ce qui apparaît parfois comme une innovation, c'est-à-dire donc ce qu'on entend parler de low-tech, le besoin d'équipements techniques qui soient simples, robustes, qui soient faiblement émetteurs de déchets, qui soient sobres en termes de ressources, etc. Enfin, tu disais par exemple le petit carnet, etc. La boussole. Et en fait, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, l'horizon quotidien de personnes, de la majorité de la population même, et ce qui est encore aussi le quotidien de nombreuses sociétés. Et ce, bah, du coup, même après l'accélération au début du XXe siècle de toutes ces nouvelles technologies. Et donc, je voulais te poser la question, à quel enjeu, en fait, les low-tech, elles répondent concrètement, sachant qu'on parlait en off avant de réinventer la roue. C'est un peu ce même concept de revenir, en fait, à quelque chose de plus simple qui existait avant, in fine, et en disant que c'est une innovation.
À un moment donné, dans les années 50 à 70, on avait atteint un point d'équilibre technologique. On avait le confort et la sobriété. Et l'industrie étant ce qu'elle est, essayant donc de maximiser le profit, a développé des stratégies, marketing, etc., qui en fait ont poussé la logique trop loin. Et donc là, on a commencé à sortir de la sobriété pour rechercher de façon un peu désespérée et absurde un confort qui n'existe pas. Le confort, c'est un état. Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien ? C'est pour ça que dans ma définition, j'utilise le mot bien-être. C'est très psychologique et c'est très personnel. Et donc, le confort est un état. Et si on vous habitue à quelque chose d'autre, votre définition du confort change. Je donne un exemple, mais aujourd'hui, vous avez des poêles qui sont à bûche et puis des poêles à peler. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des granulés de bois qui ressemblent à des granulés de litière pour chat. Enfin, voilà. Et évidemment, quand vous commencez à avoir de l'arthrose, quand vous commencez à avoir mal aux genoux, quand vous commencez à vieillir, à avoir mal au dos, vous prendre quelques bûches, aller chercher des bûches dans la grange pour les ramener, pour faire brûler votre truc, ça commence à être une corvée, à être un effort. Que fait l'industrie ? Elle dit, ah, il y a un besoin. Donc, je vais créer le poêle à granuler. Et donc, je vais, la bûche de bois, je vais la détruire, je vais en faire un tas de granulés de bois que vous allez pouvoir mettre dans votre petite machine sans aucun effort. Et donc, j'ai le poêle sans effort. Mais tout ça est électrique, tout ça est, demande donc une carte mère pour faire fonctionner la machine. Donc ça devient une machine. Ce n'est plus vous qui mettez les bûches dans le poêle, hein. C'est la machine qui gère les granulés de bois, etc. Et ça, c'est ce que fait aujourd'hui l'industrie. C'est-à-dire qu'elle elle regarde, elle crée des besoins ou elle regarde des besoins qui sont des besoins insignifiants et elle y répond. Et ensuite, à grand renfort de marketing et de publicité, elle arrive à convaincre les gens que leur confort serait quand même bien plus grand s'ils avaient la dernière innovation.
Et donc du coup, dans ton exemple du poêle, la solution, ça serait de continuer à mettre du bois, ou est-ce que par exemple, il y a d'autres alternatives qui peuvent exister, ou vraiment la solution, c'est en fait d'arrêter cette course à la volonté d'innover sur des problématiques de plus en plus infimes et de plus en plus presque imperceptibles au quotidien, parce qu'on a déjà un grand confort, et avec cet exemple du poêle à bois, je pense que c'est un peu, enfin c'est interpellant sur justement ce truc de mais jusqu'où en fait on va aller dans la quête d'un besoin. En fait, on crée des besoins là où il y en a, on a même, on sait même pas qu'on a besoin de ce besoin.
Eh bien, c'est tout simplement redonner la définition des besoins aux citoyens et non pas à l'industriel ou aux marketeurs.
Ne pas l'imposer quoi. Enfin, les industriels n'imposent pas le besoin aux citoyens.
Les industriels n'imposent pas le besoin aux citoyens. Ils créent des produits et puis ensuite ils suggèrent l'achat de ce produit. Et ensuite, grâce à des dispositions, on en a parlé, le smartphone, etc., ils arrivent à faire en sorte que ce besoin soit, enfin, pas le besoin, mais que le produit soit généralisé. Donc, par exemple, aujourd'hui, les poêles à granulés, vous avez des aides de ouf sur l'achat de poêles à granulés. D'ailleurs, il y a des gens qui ont tellement acheté ça qu'aujourd'hui, il y a des ruptures dans tous les sens de granulés, d'ailleurs, tous les ans. Donc, vous pouvez comme ça, le système peut comme ça orienter le développement d'une technologie. La voiture électrique, voilà. Dans le dernier numéro du Low-Tech Journal, on parle de, dans le numéro 9, on parle de la voiture à air comprimé. Il s'avère que on fait une enquête et en fait il s'avère que là, aujourd'hui vous n'avez pas de voitures à air comprimé qui vous sont proposées parce que les États, notamment l'État chinois, ils étaient prêts à développer cette technologie et les États ont dit ah non non mais en fait on va développer la voiture électrique et ils ont mis tout le pognon, toutes les aides vers la voiture électrique. Mais ils auraient très bien pu dire faire l'inverse et dire on va développer les voitures hybrides air comprimé essence et là on y va à fond. C'est vraiment le système peut créer, en fait la technologie n'est pas neutre, hein, on va en parler, mais c'est un choix aussi politique. Donc pour revenir à l'idée, à l'exemple du poêle, ça serait intéressant je pense que les citoyens, avec des experts, hein, mais se mettent autour de la table et disent bon voilà, le poêle à granulés, le poêle à bûche, je n'y arrive pas, c'est difficile pour moi, donc quelle réponse à donner, qui soit au départ non technologique, quelle réponse puis-je avoir ? Et ensuite, on peut avoir des améliorations technologiques, des améliorations techniques, mais qui permettent d'aider une personne âgée à déplacer du bois, voire avoir des bûches de bois plus petites, voire avoir, j'en sais rien. Hein.
Voire demander aux voisins plus jeunes.
Exactement, demander aux voisins de l'aide. Alors après, il faut pas, enfin, donc, voilà, si on met 250 personnes dans une salle avec des experts, des citoyens, des kinésithérapeutes et tout ce que vous voulez, et qu'on parle de ce sujet-là, on va arriver probablement à une solution non technologique. Si on met juste un industriel qui se dit « tiens, je vais gagner du pognon », il va se dire « je vais créer un machin qui répond aux besoins ». Un autre exemple assez rigolo que je cite souvent parce que c'est voilà, ça fait sourire, le gars qui a inventé le couteau économe. donc pour éplucher des patates, etc. L'histoire veut que ce soit un ingénieur à la retraite qui regarde sa femme qui a une arthrose aux mains galérer à éplucher des patates. Et donc, il se tourne vers elle, il fait « Attends, je vais aller dans mon atelier, je vais te créer un couteau pour t'aider. » Et donc, il va dans son atelier, il réfléchit, il trouve cette idée de l'économe et il le crée, il l'offre à sa femme et puis ensuite, il va gagner des millions en industrialisant le truc, en déposant un brevet. Il aurait pu aussi dire à sa femme « Écoute chérie, va t'asseoir, lis ton journal et moi, c'est moi qui vais éplucher les patates. » Voilà. Réponse low-tech.
Et justement, je voulais revenir sur un truc. Quand je t'écoute parler, ce que je lis aussi entre les lignes, c'est rajouter de l'humain et juste au niveau de créer des collectifs de personnes qui dialoguent, parce que le dialogue, il est pas mal coupé. Et justement, ce qui remplace le dialogue dans la plupart des cas, c'est la technologie, que ce soit par les réseaux sociaux, par le téléphone, par plein de choses. Et en ce sens, je vois aussi, pour trouver des solutions, c'est passer par le collectif et le dialogue. C'est ce que je lis un peu entre les lignes de ce que tu me dis.
Ce que tu dis est très intéressant parce que ça m'évoque quelque chose. C'est que dans l'échange humain, il y a du dialogue. Il y a, voilà, on échange, là, je parle, tu me réponds, etc. Dans la technologie, il y a uniquement des monologues. Et finalement, voilà, quand on regarde par exemple comment fonctionne Twitter, ce sont uniquement des monologues. C'est Jean-Michel qui sort son monologue et Jean-Claude qui répond à ce monologue avec un autre monologue. Et en gros, personne ne se croise véritablement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de violence, notamment sur certains réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, on ne parle pas pour l'autre. Avec l'idée qu'il va pouvoir nous répondre, mais on parle pour soi, c'est un monologue. Et deuxième chose que je dis souvent, c'est-à-dire que dans la low-tech, on pense souvent bricolage. Le problème du bricolage, c'est que le bricolage, il est seul. Il ramène à l'idée du gars tout seul dans son garage avec ses outils. Le bricolage, c'est une super idée pour vendre des caisses à outils à tous les mecs du village, quoi. Chacun, il a sa caisse à outils, il a son garage, il a son plan de travail et il a son petit truc. Et il peut pas faire grand chose parce que tout seul, on peut pas vraiment construire une éolienne. On peut un peu réparer sa voiture, on peut réparer son vélo, mais on peut pas faire quelque chose qui va contrer le système en quelque sorte. Donc, on est tout seul, chacun dans son coin. La low-tech, c'est faire ensemble. Et ça, c'est très très important. Donc, c'est pas du do it yourself. C'est pas du faites-le tout seul dans votre garage, c'est faites-le ensemble, en collectif, et avec, quand vous le faites ensemble, vous pouvez créer des trucs qui sont aussi performants et qui peuvent concurrencer des systèmes qui sont aujourd'hui vendus par les entreprises.
Vous pouvez mutualiser les compétences et les connaissances et le matériel.
Tout à fait.
Une pierre, trois coups.
Voilà.
Aussi, il y a un sujet qui est intéressant, c'est comment les impacts écologiques et environnementaux de nos systèmes du coup, techniques et de nos appareils de production mondialisés, de nos styles de vie, consumérisme, ils sont connus et ils semblent irrésistiblement s'accroître avec les mécanismes de l'effet rebond et notamment aussi de l'obsolescence programmée qui, du coup, va nous emmener un jour ou l'autre à être low-tech, effectivement, parce qu'on peut parler aussi des pénuries de matériaux, notamment dans les smartphones. Et malgré du coup un discours rassurant qui veut prôner les technologies vertes, etc., avec la nouvelle tendance high-tech, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est cette idée de vouloir faire de l'innovation high-tech verte. Donc c'est-à-dire, c'est assez paradoxal au final, et ma question, c'est plutôt en quoi les low-tech, elles constituent une alternative viable et solide pour les années à venir, dans cette dynamique où en fait, jusqu'où on va pouvoir aller ?
Alors, on en vient là à ce que je disais au début, c'est-à-dire que scientifiquement, il est avéré que la tendance d'utilisation, d'exploitation du sol, du sous-sol, et etc., hein, donc de ce que produit finalement la planète, la tendance actuelle nous conduit inévitablement à un bug, un blocage. On arrive au bout de ce que les minerais, enfin de ce que les capacités minérales sont on arrive au bout de nos capacités en minerais, on arrive au bout des capacités en pétrole, on arrive au bout des capacités en termes agricoles, on arrive, voilà. Donc on arrive au bout un peu de tout, et on arrive sur un effritement finalement de tout le système techno-industriel. Donc aujourd'hui, quand par exemple on a des bouquins qui sont sortis récemment qui expliquent que il n'y a pas de transition écologique et il n'y a pas de technologie verte parce que les différentes technologies qu'on voit aujourd'hui, notamment électriques, sont des technologies qui empilent les énergies. C'est-à-dire que quand vous créez une voiture électrique, en fait, vous utilisez énormément d'essence, énormément de charbon, énormément de pétrole, énormément de plastique, etc. Et l'électricité, les énergies renouvelables, viennent s'accumuler, en fait, aux autres énergies fossiles. C'est-à-dire que pour construire une centrale électrique, pour construire une centrale nucléaire, il faut du béton, il faut des camions, il faut donc des énergies fossiles. Et évidemment qu'une voiture électrique, elle va moins émettre de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. Néanmoins, pourquoi à ce moment-là créer des voitures électriques neuves ? Le problème, il est là. Si on prend une vieille voiture, enfin une voiture voilà, qui existe aujourd'hui, tout l'acier, tout le fer, le plastique, tout ce qui a permis sa création, son déplacement, sa mise en vente, etc., si on l'enlève de l'équation, elle est encore plus durable qu'une voiture électrique neuve. Donc le rétrofit, par exemple, électrique de vieilles voitures, sincèrement, je me demande si on ne pourrait pas l'intégrer dans la notion de low-tech. Ça se débat. Cependant, sortir des gros SUV de 4 tonnes qui sont électriques, là, et qui vont à 320 km/h, là, on a un problème. C'est qu'on est dans la démesure et dans le délire. Donc, c'est pas du tout écologique. Et donc, c'est vraiment ça la réflexion à avoir. Hein. C'est une prise de position qui consiste à dire nous arrivons à la fin d'un cycle, prenons-en conscience et entrons dans une démarche de sobriété qui est donc une démarche de moins et de mieux. Et donc, toute personne, finalement, c'est ça la philosophie, hein, et c'est ça un peu, c'est pour ça que la low-tech, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est qu'on va arrêter de chercher le plus. On n'est pas obligé d'aller toujours chercher le moins, parce que sinon, on finit tout nu dans un trou, parce qu'on va aller vers la no-tech. Alors, la low-tech n'est pas la no-tech, c'est pas l'abandon de toute technologie. C'est pas le fait que, voilà, j'abandonne le téléphone, je le jette par la fenêtre. On n'est pas des ludites. On va remettre la high-tech à sa place, à la niche. Et on va reprendre le contrôle dessus. Et on va rentrer dans on va arrêter la logique du toujours plus. Toujours plus de performance, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Non. On va se contenter de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'idée dans ma définition, il y a une volonté, parce que on marche contre le vent, donc il faut être volontaire. Et il y a une volonté de concilier. Donc, concilier, ça veut dire retrouver un équilibre. Et donc, je pense par exemple aux jeux vidéo. On peut avoir des jeux vidéo qui rentrent dans la définition de la low-tech, parce que ce sont des jeux qui nous amusent, qui permettent de passer un bon moment, mais qui ne sont pas nécessairement des trucs ultra léchés qui ressemblent à des films ultra réalistes, auxquels on joue en plus en étant en visioconférence en même temps via une application, ce qui consomme énormément de bandes passantes, ce qui est énorme, ce qui oblige à avoir la fibre ou la 5G ou quoi que ce soit. Et donc là, on rentre dans une espèce de boule de neige, dans un effet boule de neige technologique. Mais on peut très bien jouer avec des petits jeux assez sympathiques, qui se suffisent à eux-mêmes, qui pèsent 32 bits et s'amuser quand même. Donc l'idée d'aller toujours plus, toujours plus, toujours plus, cette logique-là, si on arrive à sortir de cette logique-là, je pense qu'on peut rentrer dans une autre logique de sobriété, de frugalité, et là, on peut peut-être sauver ce qui reste à sauver.
Ça, c'est une question qu'on a discuté en off avant, par rapport à les low-tech et quelle est leur image et leur vision à travers le monde. Parce que je t'ai posé la question de quel est l'écosystème des low-tech en France, au niveau européen et dans le monde. Et tu m'as répondu qu'il y avait différentes interprétation des low-tech.
Oui, alors il faut savoir que le mot low-tech tel que là on en parle, et d'ailleurs il n'est pas encore tout à fait défini, c'est vraiment franco-français. En fait, low-tech, ça veut dire plein de choses à l'étranger, mais ça ne veut pas dire ce que ça veut dire en France. Quand on parle de low-tech à un Américain, c'est les technologies des années 90. Donc c'est un truc nostalgique, un peu marrant, le Walkman, les choses comme ça, les cassettes. Voilà. Quand on parle de low-tech à un Japonais, ce sont des technologies qui ne fonctionnent plus. Des trucs vieux, vieux et délabrés. Il y a des mots qui ont été imaginés par notamment des chercheurs américains ou anglais qui veulent dire ou qui amènent au même concept que low-tech ou qui composent un peu le concept de low-tech. On a par exemple technologie soutenable, donc on dit sustainable technology. On a technologie appropriée, intermediate technology. Donc approprié, ça veut dire approprié par les gens, donc les gens les comprennent. Donc, c'est ce que Ivan Illich appelait les technologies accessibles, hein, les outils accessibles, l'accessibilité, et la convivialité. La convivialité, je vis avec. Donc, par exemple, un vélo est convivial. Au sens où je peux le réparer moi-même, je ne dépende pas de quelqu'un d'autre pour m'en occuper, etc. Donc les outils conviviaux. André Gorz, qui lui est plutôt marxiste, lui il parle de technique autonome. Donc on est autonome, on est maître de cette technique-là et on n'est pas dépendant d'autres personnes, notamment du marché, pour les faire fonctionner. Et puis voilà, les biens émancipés. Émanciper des logiques consuméristes, les technologies holistiques, ça c'est Ursula Franklin qui dit ça. Bon. Donc il y a vraiment une très très grande diversité de mots. Et moi, je dis toujours, moi j'aime bien le concept de low-tech parce que c'est une mosaïque de concepts qui est avant tout un signifiant. Comme on dit en psychanalyse, c'est comme le S de Superman sur son torse. S, ça veut dire un mot en kryptonien, mais tout le monde dit, en fait, ça veut dire Superman, et ça devient un symbole. C'est un peu ça la low-tech, hein, c'est un symbole, symbolum, c'est-à-dire c'est la moitié de la réponse. C'est ça le symbole, hein, c'est un mystère dont on n'a que la moitié, et il faut avoir l'autre moitié pour finir l'objet, en fait. Et donc, ça reste un truc imparfait, indéfini. Et je trouve que voilà, c'est tout l'intérêt de la low-tech, c'est que tout le monde peut y mettre un peu ce qu'il veut. Et donc, c'est un concept malléable, c'est un concept un peu blob, et on peut arriver à le faire entrer partout. Le risque pour la low-tech à ce moment-là, c'est que le marché s'en empare et commence à faire des produits labellisés low-tech, estampillés low-tech, etc. Et donc, on a besoin d'arriver quand même à un certain niveau de précision dans la définition et de contrôle de la définition pour pas qu'elle soit récupérée et qu'elle tombe entre les mains du marché et qu'elle soit marchandisée, si je peux dire.
Donc, même s'il n'y a pas de consensus au niveau du terme et de comment on l'entend à l'international, il y a quand même une dynamique et une certaine sorte d'influence de cette dynamique low-tech partout dans le monde, où ça reste quand même très centré au niveau européen, français.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le mot low-tech est une sorte de maison commune pour tout un tas de pratiques qui existent et qui sont des pratiques de système D. Et en gros, il y a plein de pratiques de système D dans des pays. Je pense notamment, par exemple, au bici maquinas. Donc, ce bici bicyclette. Hein, donc, ce sont des vélos auxquels on adjoint une fonction technique. Donc, par exemple, moudre des grains ou faire des jus, faire des soupes, etc. Donc, les vélos à smoothie, aujourd'hui, on en trouve, on peut en louer pour faire des fiestas. Ça, c'est des bici maquinas. Et quand vous êtes dans un pays comme la Bolivie où vous avez très peu d'électricité, eh bien, c'est quand même vachement plus simple de dégrainer du maïs avec les bici maquinas que à la main. Donc voilà, ce sont des technologies qui sont vraiment essentielles. Et en gros, le Low-Tech Lab, une de ses missions, c'est d'aller explorer ces low-tech et d'aller voir dans les suds ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous de manière d'être sobre et d'utiliser des techniques sobres pour répondre à nos besoins essentiels.
Le Low-Tech Lab, qui est du coup une association ?
Tout à fait. Qui est une association qui a maintenant quand même quelques années et qui est vraiment positionnée dans le paysage même international hein, comme étant vraiment le fer de lance de ça. Mais dans d'autres pays, on va retrouver hein, des concepts de... Enfin, on va retrouver des Fab Labs, par exemple, des organismes qui vont faire de la low-tech, mais qui ne vont pas s'appeler low-tech.
Pour essayer de conclure un peu sur une petite ouverture et pour prendre un petit peu le sujet d'actualité brûlant des... Enfin, je me suis fait un peu plaisir sur cette question, mais sur la partie donc low-tech, comment en fait on peut se dire qu'il y a un monde qui va pouvoir se concilier avec les low-tech, là où il y a une explosion exponentielle de l'usage des nouvelles technologies, notamment par exemple de l'intelligence artificielle, des chatbots, des langages conversationnels qui consomment énormément de bande passante, énormément d'énergie, qu'elle soit du coup matérielle ou immatérielle. Et en ça, dans quelle mesure du coup les deux vont réussir à se concorder ? Alors, il y a forcément un moment, tu l'as évoqué précédemment, où peut-être il y aura juste un basculement, il n'y aura plus du tout de ressources, et on sera obligé donc de partir sur les low-tech, autant anticiper. Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment donné où les pouvoirs publics ou les institutions vont s'emparer de ce sujet en dehors des industriels et proposer des solutions et des alternatives viables ?
D'abord, il y a beaucoup de gens qui, lorsque je dis, lorsque plein d'autres acteurs de l'écologie en général hein, disent que la course folle aux hautes technologies est une folie, est une absurdité, qui ne le croient pas, qui se disent non, mais bon, le génie humain va répondre au problème. Deux, il y a le nucléaire, ça va nous sauver. Trois, on a aussi des imaginaires hein, qui ont été peuplés d'idées comme quoi il y aurait, à un moment donné, on trouverait une source d'énergie propre et infinie. Et ça, on le trouve à la fois, c'est Iron Man, il a ça, et Batman, et Bruce Wayne, dans les Batman de Nolan, il a ça aussi. Donc ça peuple en fait nos imaginaires de science-fiction, etc. Or, les gars qui adorent les ingénieurs, les développeurs adorent la science-fiction. Donc, il y a cette croyance. Hein, c'est vraiment c'est pas de la religion, hein, c'est de la croyance. Mais c'est de la croyance, c'est un mythe. C'est un mythe équivalent au mythe grec. Hein, mais c'est un mythe que l'énergie, à un moment donné, elle existera toujours, on va toujours la trouver. C'est comme un dieu, quoi. Et en fait, non. Donc là, je vais vous donner une seule statistique. Donc, il y a une seule statistique... Par exemple, c'est quand je discute avec les gens de Green IT, ils m'expliquent que si on continue comme ça, en termes de matières premières, on va manquer de certaines matières premières dans moins de 8 ans. Donc ça veut dire que toute l'informatique qu'on a aujourd'hui, qu'on peut racheter neuf, qu'on peut réparer, deviendra très difficile à réparer, très difficile à produire d'ici 8 ans. Ça, c'est les premières matières qui commencent à disparaître. Il y a des œuvres d'art qui ont été créées. Il y a une œuvre d'art qui a été créée que j'ai vue à la Villette il y a quelques années. Et j'ai jamais pu retrouver ce truc ce jour-là. J'avais pas de carnet, j'avais rien sur moi et j'ai pas pu noter. Et c'est une grande déception. Mais ça montrait en fait, dans une espèce de roue du temps, quand allaient disparaître les premières matières premières. C'est-à-dire la fameuse table de Mendeleïev, eh bien, elle va commencer à disparaître, en fait, à s'éteindre. Poum, 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 les matières vont commencer à disparaître, à ne plus être disponibles sur Terre. Alors là, réponse, oui, mais on va en créer des synthétiques, ah oui, mais on va, voilà. Réponse à la Musk, ah, mais il suffit de mettre des panneaux solaires sur tout le nord de l'Afrique et tout va bien, enfin voilà. Donc ça, ce sont des mythes. Et il faut bien en prendre conscience, parce qu'à partir du moment où on redescend un peu les pieds sur terre, eh bien, on comprend que tout ce que l'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on a autour de nous, ce sont des matières premières, notamment du pétrole, et que ces matières premières ne sont pas infinies. À partir du moment où on prend conscience de ça, on fait tomber le mythe des matières premières infinies, on a dans sa tête, ça fait boum quoi, et on prend conscience que donc on ne peut pas aller aussi vite et aussi loin qu'on le voudrait aujourd'hui dans la technologie, et qu'il faut tout simplement freiner, arrêter, rentrer dans une logique de stabilisation, de freinage, de renoncement, et arrêter de penser toujours plus en permanence.
Petite dernière question. Est-ce que tu aurais du coup des recommandations pour nos éditeurs et auditrices de livres, d'associations, de ressources inspirantes sur ce sujet ?
Alors, oui.
Là, c'est la question surprise, t'as le temps de...
Oui. Alors, je vais pas vous en donner 36 000. Il y en a, bon, un déjà, il y a le site du Low Tech Lab, qui est lowtechlab.org, qui recense énormément de choses, et vous avez dessus vous avez des adresses, vous avez des tutos, vous avez des wikis, vous avez tout un tas de choses. Ensuite, vous avez le site du Low Tech Journal, autopromo, et enfin, alors, un bouquin, alors je sais que c'est, voilà, lire est devenu un truc extrêmement compliqué aujourd'hui, parce que tout simplement le smartphone consomme. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais pourquoi, par exemple, Barack Obama ou Mark Zuckerberg sont toujours habillés pareil ? C'est parce qu'ils ne veulent pas avoir à prendre cette décision en plus des 253 000 décisions qu'ils doivent prendre tous les jours. Parce qu'on a une capacité de prise de décision intellectuelle, on ne peut pas prendre plus de certaines décisions par jour. On a un peu une jauge de mana quoi, dans notre cerveau. Et quand on a trop pris de décisions, ou on a trop eu de micro-réflexions, cette jauge de mana, elle est épuisée. Donc on est épuisé intellectuellement. Eh bien le smartphone, par l'exigence intellectuelle qu'il nous demande en permanence de faire des micro-choix en fait, conduit à un épuisement intellectuel qui fait qu'on n'est plus capable, à partir d'un certain moment, de lire. Parce que lire, en fait, c'est prendre des décisions. Quand on lit pas tous les mots. On choisit, on voit les premières lettres du mot et le cerveau fait des choix de mots. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui disent « j'arrive plus à lire parce que le cerveau est trop crevé » pour choisir les mots. Donc, il lit mot à mot, bêtement. Il ne construit plus les phrases, il ne fait pas des réflexions. C'est terrifiant. Il ne crée plus des images à partir de ce qu'on lit parce qu'il est trop crevé, parce qu'il a été épuisé par le smartphone. Donc, si vous n'arrivez plus à lire, faites une cure de détox numérique. Hein, vous mettez votre téléphone de côté, etc. pendant 2-3 jours, profitez des vacances, et vous reprenez un bouquin. Votre cerveau est vachement moins fatigué et vous allez recommencer à lire et vous allez retrouver le plaisir de lire. Bon, un seul bouquin, donc c'est un livre de Ramzig Kocheyan, le lien dans la description, qui s'appelle « Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme ?» et qui explique ce qu'on a passé une partie de l'entretien là à expliquer, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle consumériste qui crée des besoins artificiels et qui fait tous de nous des addicts à la consommation, malgré nous, et qu'il est très difficile d'en sortir.
Une petite recommandation qui sera également dans la description, si je peux me permettre, d'un second ouvrage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup appris sur du coup, les low-tech. C'est donc « L'âge des low-tech » de Philippe Bioux. Apparemment, on dit le X, ah non ?
Philippe Biwix.
Biwix, mais
bah,
voilà,
tu peux refais-la.
Non, je vais la laisser au montage, c'est pas grave. Donc, Biwix. Et qui vraiment est... Enfin, si vous lisez un petit peu des articles sur les low-tech, c'est vraiment un ouvrage qui est majeur et qui est capital dans tout ce qui est la construction de ce mouvement de pensée. Et également un autre ouvrage, Perspective low-tech, de Quentin Mathéus et Gauthier Roussille. Tout sera en description, le LinkedIn aussi de Jacques. Si ça vous intéresse d'aller faire un tour et de suivre ce qu'il fait. Et il ne me reste plus qu'à te remercier.
Merci beaucoup.
Pour cet entretien passionnant et à très vite sur les podcasts de Devoteam Revolve. Au revoir.
Au revoir.